Mes chers amis, c'est toujours avec plaisir que je viens partager avec vous quelques réflexions, quelques méditations concernant la vie, son sens, ses problèmes, nos responsabilités et nos espérances. Loin de moi la prétention de connaître toutes les réponses, toutes les solutions. Je n'ai aucune intention de vous faire partager des opinions personnelles qui, après tout, ne seraient que des opinions, avec tout ce que ce mot implique comme incertitude et inconstance. Ce qui me tient à cœur, cependant, c'est de vous parler du message de la Bible, qui s'adresse à tous les hommes et à chaque homme en particulier. Tandis que les philosophes spéculent sur la signification de la vie et la destinée de l'homme, voilà un livre qui donne une explication, des solutions, une espérance, un message qui assouvit notre soif de justice, de beauté, de connaissance et d'infini. Je me suis toujours demandé pourquoi la Bible est si souvent considérée avec méfiance et son message si négligé. Les hommes sont prêts à accepter toutes sortes de théories. Ils sont disposés à se mettre à la remorque de toutes sortes de philosophies concernant le monde, la vie et l'homme. Mais quand ils lisent « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », Il créa l'homme et la femme, une phrase qui résume tout, qui explique tout, qui simplifie tout. Quand ils lisent cela, ils se sentent insultés dans leur intelligence. Pourquoi ? L'idée d'un Dieu créateur est-elle tellement invraisemblable, illogique, absurde ? Est-il par ailleurs impensable que ce créateur se révèle à sa créature et qu'il lui donne des indications, des points de repère, des lumières, bref, des révélations sur ses origines et sa destinée ? C'est là précisément le rôle de la Bible. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas une fable, c'est une collection d'écrits par une quarantaine d'écrivains, lesquels s'échelonnent sur une période d'environ 1500 ans. Mais ce ne sont pas des écrivains ordinaires, car ils se déclarent eux-mêmes poussés à écrire comme mus par un souffle irrésistible, un souffle émanant du Créateur lui-même, un Créateur qui suggère, qui éclaire, qui dicte même. C'est ce qu'on appelle l'inspiration. Les écrivains bibliques sont littéralement des instruments de Dieu pour donner à l'humanité une orientation, un but, une espérance. Ce sont ces écrivains eux-mêmes qui attestent ce fait. Généralement, leurs écrits sont précédés de cette formule, noble et impérieuse. Ainsi parle l'Éternel. Cela est vrai surtout de ces porte-paroles de Dieu qu'étaient les prophètes. Plus près de nous, il y a les apôtres. Eux aussi sont des prophètes, car ils se déclarent missionnés par Dieu. Et puis, il y a le Christ. Tous, dans le cours de ces 1500 ans, déclarent que Dieu parle par leur bouche. Le prophète Ésaïe, par exemple, haute figure de l'Ancien Testament, qui vécut au 7e siècle avant Jésus-Christ, écrit « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle ». Il n'hésite pas à introduire ses messages par l'affirmation « L'Éternel me dit, prends une grande tablette et écris dessus. » Il y a Ézéchiel, cet autre grand prophète, qui affirme, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. » Dans le Nouveau Testament, plusieurs siècles plus tard, c'est le règne des apôtres et du Christ. Le langage n'est pas différent. Concernant le Christ, l'un d'entre eux affirme, « Après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes, c'est l'Ancien Testament, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Christ. Concernant son ministère personnel, l'apôtre Paul déclare « L'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » On ne peut pas être beaucoup plus catégorique. À ceux qui accueillaient mal son message ou avec méfiance, il écrivait même « Celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu. » De même l'apôtre Pierre. Lui, il anticipe certaines critiques en disant « Ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » Quelques phrases plus loin, il dit quelques mots concernant le principe même de la révélation. « Ce ne fut pas par une volonté d'homme, dit-il, que fut jamais produite une prophétie. » Mais c'est poussé par l'Esprit-Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Tous ces témoignages, toutes ces affirmations s'ajoutent aux déclarations de tous ceux qui, en l'espace de 1500 ans, ont contribué à faire de la Bible ce qu'elle est. Que penser de tout cela? Quelle attitude devons-nous prendre devant ces hommes qui ne cessent d'affirmer, les uns après les autres, que Dieu s'est servi de leur bouche pour parler aux hommes? Dirons-nous qu'il s'agit là d'une vaste supercherie, un énorme complot de mystificateurs qui aurait tenu pendant 15 siècles? Non, la raison nous interdit un tel jugement. Nous ne pouvons que demeurer perplexes et accorder à cette œuvre décidément exceptionnelle un peu d'attention. J'ai ici, dans mes notes, la déclaration d'un homme d'État anglais. Il dit ceci: « J'ai lu avec beaucoup d'attention les Saintes Écritures. » Et je pense que ce volume, indépendamment de sa céleste origine, contient plus d'éloquence, plus de vérité historique, plus de morale, plus de richesse poétique, en un mot, plus de beauté de tous les genres, qu'on en pourrait recueillir de tous les livres ensemble, dans quelques langues et dans quelques siècles qu'ils eussent été composés. Voilà un commentaire plutôt déconcertant au sujet d'une œuvre soi-disant mue ou sortie de l'imagination humaine, fruit d'un complot de mystificateurs. Il y a Jean-Jacques Rousseau aussi, qui nous dit franchement ce qu'il pense de l'hypothèse de la supercherie. L'Évangile a des caractères de vérité si grands, si frappants, si parfaitement illimitables, que l'inventeur en serait plus étonnant que le héros. Il ajoute, avec tout cela, ce même Évangile est plein de choses incroyables, de choses qui répugnent à la raison, et qu'il est impossible à tout homme sensé de concevoir ni d'admettre. Autrement dit, le message biblique ne peut pas être le produit de l'imagination humaine. On a pu dire à juste titre que la Bible est un livre que l'homme n'aurait pas pu écrire même s'il l'avait voulu, et qu'il n'aurait pas voulu écrire même s'il l'avait pu, justement parce qu'il renferme des notions incroyables qui répugnent à la raison et qu'il est impossible à tout homme sensé de concevoir. Nous sommes ici au cœur même du principe de la révélation. Il y a une grande quantité de vérités, de faits, de lois, de connaissances que la raison de l'homme ne peut ni découvrir, ni savoir de par elle-même, et ne le pourra jamais. L'apôtre Paul dit « Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. » À l'âge des explorations spatiales, où les apparences feraient croire que l'homme est parvenu au zénith de la science, les savants doivent reconnaître qu'ils ne savent rien de l'homme, ni de ses origines, ni de sa destinée. Jean Rostand, par exemple, se faisant le porte-parole de la science biologique actuelle, fait cette confession surprenante. Sur l'origine de la vie, convenons sans embâge que nous ne savons rien. Nous ne possédons pas l'ombre d'un fait positif. Or, ce que l'homme ne peut pas découvrir par sa seule raison, ce qu'il doit savoir pour percer son propre mystère et entrevoir sa destinée, tout cela, Dieu le lui révèle. Révéler, c'est littéralement tirer un voile pour découvrir ce qui était caché. Et c'est précisément la raison d'être de la Bible. On peut dire que ce qui distingue à première vue la Bible des divers livres religieux de l'Antiquité, c'est que dans les Écritures saintes des autres peuples, l'homme cherche Dieu et l'appelle, tandis que d'un bout à l'autre de la Bible, Dieu cherche l'homme et lui parle. Avant de parler au moyen de la Bible, Dieu parle à l'homme dans la nature. Nous allons ouvrir ici une parenthèse pour considérer cet autre langage que celui des Écritures. C'est le langage de la nature. Dans son œuvre créatrice, Dieu s'adresse à l'homme. Le prophète David dit à cet égard que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue annonce l'œuvre de ses mains. Il ajoute que ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde. En effet, l'ordre partout manifesté dans l'univers, aussi bien dans l'infiniment grand que dans l'infiniment petit, ne témoigne-t-il pas avec éloquence d'une intelligence créatrice qui s'appelle Dieu. Le patriarche Job, dans l'Ancien Testament, fait appel à la logique. Il fait appel à notre raison, à notre intelligence, lorsqu'il nous jette ce défi. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes ces choses ? Et il nous confie quelle est son attitude et quelle devrait être l'attitude de chaque témoin. Voici, mon œil a vu tout cela, mon oreille l'a entendu et y a pris garde. Plusieurs siècles plus tard, l'apôtre Paul, reprenant le même thème, considère comme inexcusable, c'est le terme qu'il utilise, Ceux qui refusent de voir la présence d'un Créateur dont les signes éclatent partout quand on les considère dans ses ouvrages. L'apôtre s'indigne contre ces hommes qui ferment les yeux devant l'évidence. Il déclare qu'ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Nous avons volontairement ouvert cette parenthèse sur le message de la nature qui nous parle de Dieu pour mieux souligner la possibilité, la crédibilité, la vraisemblance et la nécessité d'une révélation plus précise encore que celle de la nature, une révélation écrite par des hommes que Dieu a choisis et inspirés. Au début de notre étude, nous nous demandions pourquoi le message biblique est-il négligé, dédaigné par les hommes. Si nous leur posons la question, ils invoquent la raison. Leur raison qui se raidit devant les affirmations de la Bible, comme si la raison devait être un obstacle à la foi. Le mot raison est d'ailleurs souvent utilisé à tort. Ce que les hommes appellent leur raison n'est souvent que leur opinion. Un tel me dira par exemple que le récit biblique de la résurrection du Christ est contraire à la raison. Il devrait plutôt dire que la résurrection est une notion qui heurte sa raison et non la raison. Et je pourrais lui opposer le témoignage d'éminents professeurs de philosophie dont la raison s'accommode fort bien du témoignage biblique concernant la résurrection du Christ. Ainsi, la raison est une chose et l'opinion en est une autre. Mais tous deux sont des moyens de connaissance imparfaits parce que constamment appelés à changer. Si je dis à un primitif en Afrique, n'ayant jamais entendu parler de rayon X, que j'ai vu de mes propres yeux tous les os de ma main, comme si la peau en avait été retirée, il ouvrira de grands yeux et me dira à sa manière que cela est contraire à la raison, c'est-à-dire invraisemblable, contraire à son opinion. De même, si je dis à un habitant des îles du Sud, n'ayant jamais entendu parler du froid et de la glace, que j'ai traversé un lac à pied sans me mouiller, il jettera les bras au ciel en disant que c'est contraire à la raison. Ce qu'il veut dire, c'est que cette révélation étrange est contraire à son expérience. C'est d'ailleurs là la mesure avec laquelle nous évaluons toute chose, l'expérience, l'opinion. Avouons que notre expérience d'homme est une affaire plutôt restreinte. Et si nous réduisons la Bible et le christianisme aux dimensions de notre expérience, il ne nous reste plus qu'à exister dans l'ignorance de ce que nous sommes et de notre destinée. Et les lumières de notre science ne seront que ténèbres. Il n'y a dès lors plus de différence essentielle entre l'homme et la bête. Mais il nous faut conclure. Et comment conclure autrement que par l'évocation de la personne du Christ qui constitue la révélation par excellence? Selon l'expression de l'apôtre Jean, le Christ n'est pas seulement la parole de Dieu parlée, il est la parole de Dieu faite chair. Il est venu nous faire entrevoir d'autres possibilités que celles qui nous paraissent concevables, d'autres réalités que celles que nous connaissons. En lui, notre raison élargit sa dimension et sa perspective, car par le miracle de sa vie et de sa résurrection, Jésus-Christ constitue un défi à la raison. Il déclare, et c'est avec cette parole que je conclurai aujourd'hui, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. »